Je voudrais quand même continuer dans la perspective du retour de Jésus-Christ. Comme mon épouse, elle a dit, tu vas parler de quoi dimanche? J'ai dit, je vais continuer avec le retour de Jésus-Christ, je vais parler de l'Antichrist. Et tu vas parler de l'Antichrist un dimanche avant Noël. Oui, je crois, parce que... Enfin non, maintenant c'est décidé. Mais... C'est vrai que aujourd'hui c'est un petit peu dur. Et c'est vrai que dans la joie de Noël que nous venons de partager, la perspective de l'Antichrist, c'est pas très réjouissant, mais c'est une réalité biblique, et c'est celle qui doit précéder ce dont nous parlons depuis plusieurs dimanches, le retour de Christ. Parce que si Christ est venu à Bethléem comme serviteur, c'est pour revenir comme roi et établir son royaume. Et c'est ce que nous sommes censés attendre les uns les autres. Alors oui, on va parler de l'Antichrist. Ce sera la dernière fois qu'il y aura des analyses de signes. Hein, c'est bien d'analyser des signes, d'être au courant de certaines choses qui se passent, de choses qui se passent à l'échelle du monde, qui sont conformes aux prophéties. Mais je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir voir ce qu'on fait après avec l'accomplissement des signes. Et donc là, après, le retour de Jésus-Christ sera envisagé plus d'une manière pratique. Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Comment je vis mon préparatif au retour de Jésus-Christ? Mais aujourd'hui, alors encore une fois, on va rester dans cette dynamique-là, des choses qui ont été écrites, annoncées et qui vont se produire et dont nous voyons toute une série de signes à l'heure d'aujourd'hui. Dieu est maître de l'histoire. On devrait tout le temps lire les prophéties bibliques et être informé de tout ce qui se dit au niveau politique, au niveau culturel, au niveau économique. Et on serait surpris, mais surpris, c'est parce qu'on n'a pas cette connaissance-là de ce qui se dit, de ce qui s'écrit. Mais on serait surpris de voir avec quelle exactitude les prophéties s'accomplissent. Dieu est maître de l'histoire. Dieu a dit et les choses s'accomplissent. L'apôtre Pierre reçoit le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte et qu'il est en train d'annoncer l'Évangile et que plusieurs milliers de personnes vont se convertir, il dit dans son discours ceci, « Cet homme vous a été livré par de Jésus-Christ, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Tout ça a été fait par l'intermédiaire de... » Mais la déclaration de Pierre, elle est claire. À la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, cette révélation lui est donnée que tout était programmé, tout était projeté. C'était un projet défini et la préscience de Dieu, la connaissance de Dieu qui est maître de l'histoire. Dieu est aux commandes de l'histoire. Et ce qu'il a écrit dans les prophéties il y a des milliers d'années s'accomplit. Et il nous est important à nous qui attendons le retour de Jésus-Christ d'être attentifs aux signes. Pour nous préparer, pour être prêts. Je vous invite à lire un texte, parce que dans les temps de la fin et dans l'imminence du retour de Jésus-Christ, il faut d'abord pouvoir se situer dans l'histoire. Or, il y a un texte connu de l'Ancien Testament, une prophétie qui a été faite par Daniel, et qui nous donne l'explication de l'histoire de l'humanité. Il est évident que si on attend quelque chose, il faut savoir si on est dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le dernier chapitre de cette histoire. Alors on va lire ce texte et puis on va revenir au contexte dans lequel il est dit et on va voir quelles en sont les conséquences pour nous à l'heure d'aujourd'hui. Ça se trouve dans le livre de Daniel, donc au chapitre 2. On va lire quand même quelques versets parce que c'est l'explication d'une vision sur laquelle nous allons revenir. Daniel parle au roi Nabucodonosor, roi de Babylone, et lui dit « Mon roi, voici ce que tu as vu dans ton rêve. Une statue était devant toi, elle était immense, elle était très brillante et elle faisait peur. Sa tête, elle était en or fin, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient moitié en fer et moitié en terre cuite. Tu étais en train de regarder la statue. Tout à coup, une pierre s'est détachée toute seule d'une montagne. Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue et elle les a écrasés. Alors, elle s'est écrasée ensemble le fer, la terre cuite, le bronze, l'argent et l'or et tout. Et ils sont devenus de la poussière qui s'est envoyée comme la paille s'envole au moment où on bat les grains. Le vent les a emportés sans laisser de traces. Et la pierre qui a frappé la statue est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Voilà ce que tu as vu en rêve, mon roi. Maintenant, voici le sens de ce rêve. Tu es le plus grand de tous les rois. Le Dieu qui est au ciel t'a donné le pouvoir royal, la puissance, la force et l'honneur. Ah oui, c'est moi qui l'ai bougé. Il a placé sous ton autorité les êtres humains, les animaux, les oiseaux, partout où ils habitent. Il t'a établi comme maître sur tout. Et la tête en or, c'est toi. Un autre royaume, moins puissant que le tien, viendra après toi. Puis un troisième royaume, représenté par le bronze, il s'étendra sur toute la terre. Un quatrième royaume, dur comme le fer, viendra ensuite. Le fer casse tout, il écrase tout et réduit tout en poussière. Eh bien, ce royaume écrasera et brisera tous les autres royaumes. Tu as vu les pieds et les doigts de pied de la statue. Une partie était en terre cuite et l'autre en partie de fer. Cela veut dire que ce royaume sera divisé. Il aura en partie la force du fer, comme le fer que tu as vu mélangé à la terre cuite. Mais les doigts de pied, moitié en fer, moitié en terre cuite, signifie qu'une partie de ce royaume sera forte et l'autre faible. L'union du fer et de la terre cuite n'est pas solide. De même, dans ce royaume divisé, des rois s'uniront par des mariages, mais ces unions ne seront pas solides. À l'époque où ces rois auront le pouvoir, le Dieu qui est au-dessus du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Le pouvoir de ce royaume ne passera jamais à un autre peuple. Il écrasera tous les autres royaumes et il les détruira. Mais lui, il durera toujours. Tu as vu la pierre qui s'est détachée toute seule de la montagne. Elle a écrasé le fer, le bronze et la terre cuite, l'argent et l'or de la statue. Eh bien, c'est elle qui représente ce royaume. Le grand Dieu t'a fait connaître ce qui arrivera plus tard. Ton rêve représente vraiment la réalité et mon interprétation est digne de confiance. Le grand roi, le grand Dieu, t'a fait connaître ce qui arrivera plus tard. Alors, le contexte dans lequel ceci est écrit, ce que nous venons de lire, c'est le plus grand des rois de l'époque, Nabucodonosor, c'est le royaume babylonien. Babylone est la capitale et on est à une époque où Babylone est vraiment à son extension maximale. Elle a pris tout sur son passage et il y a peu de temps, en fait, Israël a été anéanti, Jérusalem a été détruit et des Juifs ont été déportés, parmi eux Daniel, celui qui va révéler la prophétie ici, et quelques-uns de ses amis. Il se fait que le roi Nabucodonosor, il est tout puissant, il a, comme on l'a vu dans cette prophétie aussi et dans l'explication de ce songe, pouvoir sur tout ce qui vit, pouvoir de vie, pouvoir de mort, et Nabucodonosor vient de faire un rêve qui l'a profondément troublé. Et lorsque il veut se souvenir du rêve, pour en avoir l'explication, il s'en souvient plus. Alors, il dit pas de problème, il convoque tous les mages, les magiciens de son royaume, il les fait venir et dit, vous allez m'expliquer le songe que j'ai vu, mais vous allez aussi me rappeler le songe que je l'ai vu, parce que j'ai oublié. Alors, bien sûr, tous les sages et magiciens lui disent, on veut bien t'expliquer ton songe, mais pour ça, il faudrait quand même que tu nous dises ce que t'as vu. Alors, il est très fâché, il leur dit, mais enfin, vous allez m'expliquer les choses que j'ai vues, mais vous savez pas me dire le rêve que j'ai fait. Il y a quelque chose qui va pas, vous allez tous passer à la trappe, je vais tous vous condamner à mort. Ces événements arrivent aux oreilles de Daniel. Daniel se réunit dans la prière avec ses frères juifs. Il prie leur Dieu et il demande de recevoir la révélation qu'ils doivent apporter à Nabucodonosor. Et Nabucodonosor reçoit Daniel et c'est à ce moment-là que Daniel lui explique ceci. Donc, vous avez vu que dans cette histoire, le roi a vu une statue. Une statue, c'est intéressant pour nous que bien sûr il y ait la vision, mais qu'il y ait l'explication de Daniel. Une explication d'ailleurs qui se peaufine aussi dans la suite du livre de Daniel. Il revient sur les différents empires, il revient aussi sur la manière dont ces empires seront conquérants, leur manière de se battre, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans un moment. Mais la statue qui est vue, c'est une statue de tête en or, une poitrine en argent, le bassin en bronze, les pieds, les jambes en fer, et les pieds, quelque chose de bizarroïde qui est formé en même temps encore de fer, mais avec autre chose qui le rend fragilisé, de l'argile. Et un petit peu comme si c'était une extension, les doigts de pied, là, quelque chose qui est une sorte de résurgence des deux jambes. Et donc, Daniel va expliquer que ceci, c'est la vision de l'histoire de l'humanité. Elle se regroupe dans cette statue. Il y aura dans l'humanité quatre grands royaumes. Le premier, c'est Babylone, c'est la tête en or. Le deuxième, ce sera un royaume un peu plus faible. Nous qui connaissons, c'est facile évidemment pour nous, hein. Les théologiens, les exégètes, ils ont étudié tout ça en lisant et en contrôlant avec l'histoire. Alors nous, évidemment, qui connaissons toute l'histoire qui est arrivée après ça, puisque ceci s'est quand même prophétisé 600 ans avant Jésus-Christ, nous savons ce qui s'est passé après. Et nous savons qu'après Babylone, effectivement, le deuxième grand empire, ça a été les Mèdes, ça a été les Perses. Puis nous savons que le troisième grand empire, ça a été les Grecs. Puis nous savons que le quatrième grand empire, ça a été les Romains. Et puis c'est fini. La chose qui frappe le plus Daniel, c'est le cinquième empire. Et c'est celui qu'il explique le plus en détail, vous avez remarqué. Il y a cette pierre qui roule, qui vient de nulle part, que aucune main d'homme n'a touché, et qui va venir percuter l'endroit de la statue, elle est le plus fragile, là où il y a du fer et de l'argile, ça se casse tout de suite, dit ça Daniel. Et effectivement, c'est ce qui se passe, la statue s'effondre, et tous les empires du monde, depuis l'histoire du monde, s'effondrent, et subitement, de cette poussière qui reste, de cette pierre qui a tout écrasé, se forme une grande montagne qui envahit la totalité de la terre. Ça, dit Daniel, c'est le dernier royaume. C'est le royaume éternel. C'est celui qui est institué, instauré par Dieu. C'est le royaume de Dieu. Il est donc important pour nous, quand on parle du retour de Jésus-Christ, de se dire, mais nous, on est où? Alors c'est facile, on sait qu'on n'est pas dans la tête en or, qu'on n'est pas dans l'argent, qu'on n'est pas dans le bronze, qu'on n'est pas dans le fer, parce que tous ces empires sont finis. Mais alors, où est-on? Nous nous situons dans la toute dernière partie de la statue, qui, c'est assez bizarre, mais est une sorte de retour à l'Empire romain. En fait, vous allez voir que si on lit ce texte et qu'on compare ça avec des déclarations, on se dit, mais mince, c'est pas vrai. Nous vivons dans la résurgence de l'Empire romain. Nous vivons dans un retour à l'Empire romain. Hein, l'Empire romain, les deux jambes, c'était déjà assez particulier, parce que vous savez que l'Empire romain très vite a été séparé entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, mais ses pieds, avec ses 10 doigts de pied, ses alliances entre des nations, mais qui sont fragiles et parfois en même temps forts, nous sommes là. Regardez, en 1900, bien sûr, bon, c'est pas récent comme déclaration, mais nous sommes en train de balayer l'histoire du monde, hein. Alors, 85, 15, 20 ans. En fait, nous, nos trois générations qui sont ici, ou peut-être les quatre générations qui sont ici, mes parents, moi, mes enfants, on va dire ces trois générations-là, ont vécu à la dimension de la prophétie, les plus grands nombres de réalisations prophétiques des temps de la fin. Et en particulier celle-ci, c'est pour ça, déclaration de 85, c'est pas vieux dans cette dynamique-là. On va prendre aujourd'hui qu'on parle des événements depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, c'est de 1950 à aujourd'hui. 65 ans. Qu'est-ce que c'est 65 ans? En 1985, il y a un historien français, François Fontaine, il écrit dans un livre, il dit « Le monde moderne a déjà existé, et il y a 18 siècles. Il s'appelait l'Empire romain. C'était la préfiguration de l'Europe actuelle, avec son marché commun, avec son rayonnement universel. Nous sommes là. Depuis que l'on parle de reconstitution de l'Europe, depuis qu'on parle des communautés européennes, depuis qu'on parle de commission européenne, nous sommes là, dans cette phase-là, terminale, la résurgence de l'Empire romain. C'est basé un peu sur les mêmes frontières, c'est basé un peu sur les mêmes principes. Regardez ce qui s'est passé quelques années plus tard, lorsque c'est maintenant 1999, l'an 2000, à ce moment-là, sur une nuit, plus de 250 millions de gens se sont levés et ont changé leur ancienne monnaie avec une nouvelle monnaie qui s'appelait l'euro. À ce moment-là, le commissaire européen qui était chargé des affaires économiques et monétaires disait « Le 1er janvier 1999, l'Europe aura sa monnaie. L'euro, une première depuis la chute de l'Empire romain. Nous sommes donc en train de vivre aujourd'hui le réveil, le renouveau de ce qui était organisé voici près de 2000 ans. » La Bible dit que des excroissances de l'Empire romain va être la dernière étape de l'histoire du monde. Et les gens au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, écrivent « Nous sommes en train de vivre le réveil de l'Empire romain, les choses qui étaient organisées il y a près de 2000 ans. » Vous lisez ces choses-là, vous les lisez avec la Bible, vous dites « Mais ces gens qui font les déclarations, ils auraient mieux fait de lire la prophétie et de réciter la prophétie. » Mais ça, ça n'intéresse pas grand monde. Je ne sais pas si on vous a déjà dit « Tu es encore dans ce vieux livre, mais vis dans ton temps. » Reviens parmi nous, reviens parmi tes contemporains, laisse tomber toutes ces vieilles histoires. Et c'est ahurissant de voir combien ces vieilles histoires prennent leur dimension et s'accomplissent aujourd'hui, à notre époque, maintenant. Daniel, lui, ce qu'il disait, c'était ce qui venait de Dieu. Et il y a dans les cieux un Dieu qui fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Le songe, il est véritable et son explication, elle est certaine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir que le dernier empire de l'histoire de l'humanité sera un empire particulier. Fragilisé, bizarroïde, argile, fer, alliance, conflit. Il y a quelques années, l'affiche que le Conseil de la coopération culturelle du Conseil de l'Europe avait diffusée pour représenter l'Europe, c'était ceci. Hein, vous voyez, l'Europe, plusieurs langues, une seule voix. Alors on voyait sur cette affiche, bon, dans le sommet bien sûr, les communautés européennes, le fond bleu, les étoiles. On voyait la construction d'une tour et on voyait en dessous là des gens un peu bizarroïdes. Je sais pas s'il faut se dire des gens robotisés. Je sais pas. En tout cas, ils sont un petit peu bizarres. C'est l'image que l'Europe, les communautés européennes voulaient donner d'elles-mêmes. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un peu comme la belle tour de Babel, qu'on voulait appeler Babel la Neuve, c'est peut-être un peu interpellant sur un site universitaire catholique. Vous vous souvenez quand même que tout ce qui fait référence à Babel dans l'écriture a une connotation un peu malsaine quand même. Je vous rappelle Genèse 11:4. Allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, faisons-nous un nom. C'est avant l'heure, la toute puissance de l'humanisme qui grandit, qui bafoue Dieu, qui lève le poing contre Dieu. Et on connaît la réponse de Dieu, c'est d'arrêter cette tour, de diviser toutes les nations et de confondre toutes leurs langues. Ça, c'est la réponse de Dieu à cette vision-là. Vous savez quand même que dans l'Écriture, du moment qu'on parle de Babel, Babylone, Babylone, Babel, on sait qu'on est en train de faire référence à des forces mauvaises qui sont utilisées par les puissances contre Dieu pour combattre Dieu. C'est toujours comme ça, hein, la grande Babylone, la tour de Babel, ça a toujours été cette vision-là de puissance utilisée par le mal pour s'opposer à Dieu. C'est l'image que l'Europe se donne, une image semblable à la tour de Babel. Un peu plus loin, dans le livre de Daniel, on lit au chapitre 7, verset 7, Daniel, après avoir vu les différents empires sous forme de la statue, il les voit représentés comme des animaux au combat. Et là, nous lisons pour le dernier empire, celui qui nous concerne, la Rome restituée ou la Rome recomposée, la Rome réinitialisée, je ne sais pas. Nous lisons dans Daniel 7, verset 7, « Après cela, je continue à regarder ce qui apparaît dans mon rêve pendant la nuit. » La quatrième bête, donc c'est le quatrième royaume, il est représenté par cette quatrième bête, que je vois, elle est terrible. Elle est effrayante. Sa force est extraordinaire. Elle a des grandes dents en fer. Elle mange et déchire tout ce qu'elle trouve. Ce qu'elle ne mange pas, elle l'écrase avec ses pattes. Elle est différente des trois autres bêtes. Elle a 10 cornes, je regarde les cornes, une nouvelle corne, plus petite, se met à pousser parmi les autres. Elle fait tomber 3 cornes. Cette corne a 2 yeux comme ceux d'un être humain, une bouche qui dit des paroles pleines d'orgueil. On va laisser de côté les cornes. Je m'intéresse ici simplement au royaume et aux bêtes qui les caractérisent. Voilà la description de Daniel. Il a vu quelque chose de tout à fait effrayant à propos de cette dernière bête. Il dit lui-même, c'était pas du tout une bête comme les autres. Et si on devait comparer les royaumes comme le royaume babylonien, mèdes, perses, romains, grecs, ben ces gens se sont toujours battus avec des épées, des lances, et des flèches, et quelques chars. C'est sûr que si la vision que Dieu a donnée à Daniel du quatrième royaume, c'est quelques images de ce que nous connaissons, de la puissance de destruction de notre monde, l'armement que nous avons à disposition dans notre monde, les chars, les canons, les champignons atomiques. Si Dieu a montré à Daniel cette quatrième bête comme ça, c'est sûr qu'il avait de quoi être effrayé. Nous sommes dans cette dernière période. La quatrième bête, le quatrième royaume dans sa réapparition, si on veut, la restitution de l'ancien empire romain. Nous sommes dans cette période et nous sommes donc dans tous ces signes qui sont les derniers signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Après nous, après cet empire-là, fini, et il n'y en a plus d'autres. C'est un peu comme ça partout. Quand vous allez au Vatican, c'est très très impressionnant, vous avez l'histoire des papes tout autour d'un chapelle Sixtine, vous avez les photos, enfin c'est pas les photos, c'est les représentations depuis l'histoire de la chrétienté, du pape numéro 1, du pape numéro 2, du pape numéro 3, et puis quand j'y suis allé il y a quelques années, j'étais très surpris qu'il reste 2 cases. Après on se dit, il n'y a plus de place ou quoi? Où est-ce qu'ils vont mettre les autres? Je ne sais pas s'ils savent quelque chose, mais il reste 2 cases. C'est tout. Enfin, il restait 2 cases parce que depuis que j'y suis allé, les choses ont changé. Je ne sais pas où ils vont mettre les choses. Je ne sais pas ce qui va se passer. La fois passée, nous avons vu toute une série de signes qui évoquaient les changements climatiques, les séismes, les famines, les cataclysmes, les maladies, la souffrance, le mal. Aujourd'hui, ce qu'on met en évidence, c'est les signes géopolitiques qui se mettent en place et qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Je me suis focalisé expressément sur l'Europe, parce que c'est quelque chose dont on parle tous les jours, la reconstitution de l'ancien empire romain, mais dans les prophéties, sur ces quelques décennies, il y a tant de choses invraisemblables, inouïes, qui se sont produites, comme le retour du peuple d'Israël sur la terre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Impensable de concevoir ça dans les 15, 16, 17, 18, 19 siècles qui nous ont précédés. Le désert qui devient un jardin, vous connaissez ces prophéties qui disent que Israël reviendra chez lui et qu'elle inondera les terres entières, le monde entier, avec ses fruits, avec ses fleurs. Si vous lisez un peu les poètes comme Lamartine, Chateaubriand, ils décrivent leur voyage en Orient. Ils sont allés en 1830, ils sont allés là-bas à Jérusalem. Quand vous lisez ce qu'ils écrivent, c'était la désolation, le désert partout. Des chiens errants, 2 chèvres, 3 moutons, une petite Jérusalem qui se sont réjouis de voir avec 2-3 minarets et 2-3 murs. Il n'y avait rien d'autre. Quand vous voyez les photos des lieux qui précédaient les kibbutz, là où les colons juifs sont revenus au début, quand vous voyez ces photos, ce qu'il y avait, ce désert, rien. Aujourd'hui, les fruits, les cultures, la nourriture, les fleurs, tout quitte Israël et envahit le monde. Invraisemblable, tout récent, ces quelques dernières décennies. Qui pouvait lire des prophéties pareilles en disant « le prophète est fou » ? Qui pouvait lire ça en se disant « ce prophète, ne pas dire « ce prophète est complètement fou » ? » Ces choses se sont accomplies. Jérusalem qui est appelée à être cette pierre pesante pour tous les peuples, Vous croyez qu'au 11e siècle, au 12e siècle, au 13e siècle, au 14e siècle, Jérusalem a été la pierre pesante pour tous les peuples? Aujourd'hui, regardez dans vos infos, quand on parle de Jérusalem, regardez combien le monde est accroché à tout ce qui se passe à Jérusalem. Le processus de mondialisation, pour la première fois qu'on a parlé de ce nouvel ordre mondial dont on nous parle dans la Bible, c'est à la guerre d'Irak, il y a quelques années. C'est Bush le premier qui a parlé de l'établissement du nouvel ordre mondial. Depuis lors, c'est une expression que vous entendez presque tous les jours. Le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial. La mondialisation. Où que vous alliez, vous allez faire vos courses à Londres, vous allez faire vos courses à Paris, vous allez faire vos courses à Bruxelles. Vous trouvez les mêmes galeries avec tous les mêmes magasins. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous connaissez par cœur ce que vous allez trouver. Mondialisation, le nouvel ordre mondial. Tous ces signes là pour mettre en place la préparation de celui qui doit venir, l'Antichrist. L'Antichrist, je vous invite à relire, parce que ces passages sont quand même un peu longs, les deux passages principaux dont on parle de l'Antichrist, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 13, c'est les versets 1 à 18, et c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 12. Là, on vous donne un maximum d'informations sur ce personnage qui doit venir, qui est appelé Antichrist, mais qui est aussi appelé fils de la perdition, la bête, il a plusieurs noms, mais on l'appelle Antichrist dans la Bible parce qu'il est celui qui, vous savez, on parle de matière et antimatière. On parle de positif et négatif. L'Antichrist est vraiment l'opposé du Christ. Si vous prenez une caractéristique de Jésus-Christ, une qualité, un attribut du Christ, vous prenez le contraire et vous pouvez définir l'Antichrist. Moi, j'ai juste repris quelques versets, on ne va pas lire tout ça, mais je vous invite à relire ces choses à la maison pour voir que ce qu'on en dit ce matin est bien la réalité. Mais je relis simplement à partir du verset 4 ici. « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des paroles blasphématoires. Il fut donné à cette bête le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, sur tous les peuples, sur toutes les langues et sur toutes les nations. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Quelques éléments qui décrivent ce personnage qui doit venir, qu'on appelle l'Antichrist. En tout opposé à Jésus-Christ. Le Christ Dieu, il est venu, il s'est fait homme. L'Antichrist, c'est celui qui est un homme et qui voudra se faire Dieu. Le Christ, c'est la douceur. Vous savez tous ces témoignages où Christ était dans la foule, on touchait son vêtement, qui m'a touché? N'importe qui s'adressait à lui, il s'arrêtait, il écoutait. C'est la douceur. L'Antichrist, ce sera l'arrogance, ce sera la violence, ce sera le blasphème. Le Christ, c'est l'humilité. On a rappelé, je suis venu comme serviteur et non pas pour être servi. Je suis venu donner ma vie au rançon. L'Antichrist, c'est l'orgueil. C'est celui qui prend la vie des autres. Le Christ, c'est l'agneau. On peut lire dans les textes comme ceci, que là, vient de rappeler un des titres de l'Antichrist, c'est la bête. C'est pas l'agneau, c'est la bête. Le Christ, c'est le juste. Le seul juste, l'Antichrist, il fera tout ce qui caractérise l'impie. Un de ses noms d'ailleurs, c'est l'impie. Le Christ, c'est la vérité. L'Antichrist, c'est le mensonge. C'est un séducteur, un menteur. Le Christ, il descend d'en haut. L'Antichrist, il nous est dit qu'il monte de l'abîme. C'est l'ancien dragon qui lui donne naissance. Il sort de l'abîme. Le Christ, il est sauveur. L'Antichrist, il est appelé le fils de la perdition. Le Christ sauve, l'Antichrist, l'Antichrist perd. Vous avez dans le texte qu'on a lu, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront. En fait, tous ceux qui aujourd'hui sont contre le Christ préparent l'avènement, préparent au suffrage universel élection de l'Antichrist. Tous ceux qui sont contre le Christ seront pour l'Antichrist. À un moment sur la terre, le choix va se résumer à ça. Dans les derniers temps du dernier royaume, le choix va se résumer à ça. Ce ne sera pas d'être soit pour Allah, soit pour Bouddha, soit pour Krishna, soit pour... Non, ce sera soit pour le Christ, soit pour l'Antichrist. Quels sont... Le Christ vient de Dieu, l'Antichrist vient de Satan. Quels seront les champs d'activité de l'Antichrist ? L'Antichrist, c'est un personnage spirituel. Il ne faut pas croire que l'Antichrist, ce sera un monstre horrible. Non, 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 c'est un personnage spirituel. C'est quelqu'un qui va parler de Dieu. C'est quelqu'un qui va parler de religion. Mais il faut qu'il puisse amener ça sur la scène mondiale. Et il a trois sites d'activité, trois champs d'activité. Le premier champ, c'est la domination politique mondiale. C'est ce qu'on lit en Apocalypse 13, verset 3. « Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Ça va se passer comme ça. Au début, quand vous lisez ces textes, vous voyez que c'est un séducteur. Il va avoir des bonnes idées, il va attirer, il va réconcilier. D'abord, ce sera dans la douceur. Et quand on voit ces textes-là, que toute la terre sera dans l'admiration, on pourrait presque dire qu'il va être élu démocratiquement. C'est pas la première fois que ça arrive. Vous prenez quelqu'un comme Hitler, il a été élu par le peuple tout à fait démocratiquement. On attendait des choses extraordinaires de lui. Après, ça a changé, c'est devenu la catastrophe, le monstre, l'abomination. Mais au début, il est élu démocratiquement. Il semble, tout semble dire, à propos de l'Antichrist, qu'il va être lui aussi élu démocratiquement. La terre entière va vouloir de lui. Parce que ce sera le séducteur qui fait des alliances avec les peuples, qui promet des choses, et les choses se passeront bien, et il aura du succès. Ensuite, le deuxième champ d'action de l'Antichrist, ce sera la domination économique mondiale. Nous lisons dans Apocalypse 13, au verset 17, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça veut dire que l'Antichrist sera le personnage le plus puissant de la terre, ce sera le plus grand des dictateurs, le dictateur qu'on aura, comme on n'en aura jamais eu, qui va réunir sous lui toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus. Mais c'est clair que pour faire ça, il faut beaucoup, 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 beaucoup de ressources, beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, il nous est dit ici, et on commence à sentir comment ça peut venir, ces choses-là, n'est-ce pas? On voit des pays qui, sans rien faire, voient les milliards tomber, couler du ciel, comme ça. On voit d'autres pays qui, en levant le petit doigt, ferment des tuyauteries, et le reste de l'Europe n'a plus de gaz. On voit comment, à un moment donné, un seul individu pourrait être à la tête de tout le système économique mondial. Maîtriser tout le système économique mondial. Au point que, si ça passe pas par lui, tu commerces plus. Si ça passe pas par son nom, tu commerces plus. Si ça passe pas par sa marque, tu ne commerces plus. Si ça passe pas par son nombre, tu ne commerces plus. Mais tout ceci, cette domination politique, être le roi sur toutes les nations, et cette domination économique, être à la tête et au contrôle de toute l'économie mondiale, ça ne sert qu'à un objectif. Le principal de l'Antichrist, la domination religieuse mondiale. C'est ça qu'il veut. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire que les seuls qui ne l'adoreront pas, ce seront les chrétiens. Tous les autres adoreront la représentation spirituelle de l'Antichrist. Il est spirituel, il viendra établir une religion, il viendra pour être adoré. Alors ça aussi, ça fait bizarre de se dire un grand dictateur adoré. Tous les dictateurs veulent être adorés. Et on a quand même quelques spécimens, quand on voit ceux de Corée du Nord et tout ça, qu'on se rend compte ce que veut dire être adoré. Ce sont des dictateurs qu'il faut adorer comme des dieux. Le grand dictateur du dernier temps sera spirituel. Il va mettre le comble à l'abomination de l'abomination, la plus grande des apostasies, c'est ce qui est décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Le fils du péché, c'est l'Antichrist, le fils de la perdition, c'est l'Antichrist, l'adversaire, c'est l'Antichrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le but ultime de l'Antichrist sera de caractère religieux. Il vise l'adoration universelle. Alors voilà. Lourd, n'est-ce pas, pour ce dimanche qui précède Noël. La conclusion, mes amis. Il faudra s'attendre à des choses terribles. On en a parlé dans Matthieu 24, que les temps de la fin seront semblables au temps du début de la chrétienté, avec une persécution qui n'aura jamais atteint son niveau dans les autres époques de l'histoire de l'humanité. Le système religieux qu'établira l'Antichrist, ce sera un système sans pitié contre les chrétiens. Apocalypse 13:15, « Afin que la bête fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête y fussent tués. Et je la vis, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Pour la chrétienté, ce sera redoutable. C'est 42 mois dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi on est tout au bout. Est-ce que ça doit faire peur? Je pense que la conclusion, c'est tout le temps la même. Quand Jésus a expliqué ça à ses disciples, c'était au premier siècle. C'était tout au début de l'histoire. Il n'était même pas encore parti. Et déjà, il disait, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Nous sommes remis devant la responsabilité de nos choix. Combien de fois nous vivons comme de bons chrétiens, mais tellement attachés à nos amis, à nos connaissances, à nos petites activités, à nos petits plaisirs. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas à avoir de petits plaisirs, d'amis, d'activités. Mais nous sommes appelés devant nos responsabilités et l'histoire du monde, elle va vers autre chose. Elle va vers cette pierre qui roule, qui casse tous les royaumes de la terre pour établir le royaume de Dieu. Alors, est-ce que, oui ou non, c'est ça la priorité pour nous, ou est-ce que nous restons sensibles à ce que nous pourrons encore acheter, consommer, vivre sous le blason et en adorant l'Antichrist? On ne doit pas avoir peur parce qu'on pourra toujours choisir. On pourra toujours, au dernier moment, dire, si l'Antichrist règne, je crois que c'est lui qui a raison, alors j'abandonne le Christ. Et on ne doit pas avoir peur parce que si on choisit le Christ, on se prépare pour le royaume éternel à venir, celui qui a abattu tous les royaumes terrestres. Le Fils de Dieu est venu pour sauver ce qui était perdu. Nous sommes quand même perdus. Nous sommes quand même sauvés. Alors, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors j'ai dit, c'était dur, c'est costaud aujourd'hui, c'est un peu assommant, c'est vrai, ça peut faire peur, ça peut nous interpeller. L'important, c'est d'être conscient que nous sommes dans les derniers temps et que donc il faut racheter le temps encore plus que quand il y en a beaucoup devant nous. Et l'important, c'est que maintenant, par la suite, nous allons voir comment nous préparer à vivre notre foi, notre chrétienté dans ces temps-là qui s'annoncent. Amen.